homens. C'est un vœu que nous formulons, comptons sur ta grâce pour pouvoir accomplir ce vœu, de suivre tout, chaque jour, bon ou mauvais, que nous puissions te suivre pas à pas, suivant les empreintes que tu nous as laissées. Te bénissons, notre Père céleste, pour le privilège que tu nous donnes ce soir de pouvoir nous assembler. Que tu bénisses cette réunion, que tu sois avec nous, que tu nous parles. Pendant que nous savons, nous t'avons parlé dans nos prières, nous prions de bien vouloir les exaucer et nous t'en remercions déjà. Remettons nos bien-aimés qui sont dans le besoin que tu interviennes en leur faveur, soit parce qu'ils sont malades, soit parce qu'ils ont des problèmes, soit parce qu'ils ont des soucis. Tu peux régler tout cela. Il n'y a aucune nature de problème qui peut t'échapper. Tu es au-dessus de tout cela. Veuille inspirer ta parole ce soir. Rendre nos oreilles également. Que nous puissions avoir cette oreille auditive. Les oreilles de véritables étudiants du Seigneur Jésus-Christ. Accorde-le-nous, ô Père. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. J'ai ma voix, j'ai été contaminé quelque part. Vendredi, je pars en France. Et soit ce sera frère Nestor, soit frère Tombeau, ou alors frère Flavia, qui vous adresse. Des salutations. Dimanche, ce sera frère Flavia qui tiendra le culte. Frère Albert devra se reposer encore, peut-être. Il reprendra du service la semaine prochaine. Je pars vendredi, je reviens mardi. Donc, ce sera pour un petit temps seulement. Ça va? En tout cas, le frère Flavien est là. Il m'a demandé de saluer l'Assemblée au nom de Jésus-Christ de sa part. Amen. Bien. Ça va, David? Oui. Nous allons nous lever. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4, juste un verset, le premier. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. On peut continuer, mais à partie 2 et 3, on verra ça plus tard. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Pouvons nous asseoir. Ce soir, nous intitulerons le sujet « La vocation qui nous a été adressée ». La vocation, c'est un appel. C'est un appel que Dieu nous a adressé. Nous devons savoir maintenant que cette vocation-là, cet appel, c'est un appel élevé. On vous appelle à une position élevée. C'est une sainte vocation. 2 Timothée, chapitre 1er. Ça veut dire que c'est un appel fait par le Dieu Saint. Et c'est une sainte vocation. 2 Timothée 1, verset 8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur.
Amen.
Dites amen à ça. Ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Amen. Non à cause de nos œuvres, pas parce que nous faisions de bonnes œuvres, mais selon son propre dessein, selon le plan que lui-même a élaboré, selon son propre dessein et selon la grâce, une faveur imméritée, la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, bien avant la fondation du monde, donc, et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Cette vocation, ce haut appel nous rend nous-mêmes également saints. Dites amen à ça. Romains chapitre 1er. Si Dieu nous appelle, eh bien, cet appel nous rend saints. On n'est pas saints parce qu'il y a eu un miracle dans notre vie, on a mené une enquête. Non, ce n'est pas à l'Église de vous nominer saints. C'est l'appel de Dieu qui fait de nous des saints. Romains chapitre 1er, verset 5. Par lui, par Jésus-Christ, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous, donc nous, ça va? Parmi lesquels vous êtes aussi, nous sommes des païens. Ce n'est pas une injure. Parfois, certains prennent ça mal quand je dis ça, c'est païen. Vous savez, quand on cite certaines coutumes de chez nous en Afrique, on dit chez nous dans notre village ou bien dans la famille, quand il se passe tel événement, on fait ci, on fait ça, ce sont des pratiques païennes. Ça va? Elles n'ont rien à voir à faire avec des pratiques chrétiennes. Maintenant, il y a des pratiques païennes qui ne sont pas à l'encontre de la volonté de Dieu. Et dans ce cas-là, vous pouvez toujours les faire dans vos rassemblements festifs, pardon, ou carrément dans d'autres rassemblements familiaux. Vous pouvez toujours les pratiquer tant que ça ne mord pas dans la Bible, à contresens. Mais maintenant, il ne faut pas toujours se dire, maintenant, sachant que c'est païen, et puis commencer à dire, bon, on va prier pour ça. Tant que c'est païen, laissez ça sur le côté. Faites la chose. La prière, c'est pour autre chose. Ça va? Donc, parmi vous étiez autrefois, vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux, verset 7, qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés saints par vocation, pas par vos œuvres, par vocation. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, les bien-aimés de Dieu, les bien-aimés de Dieu, David en était un, n'est-ce pas? C'est ce que ça veut dire, David en était un, et les bien-aimés de Dieu sont les élus de Dieu. Dieu les a aimés avant la fondation du monde. 1 Corinthiens, chapitre 1er. deux premiers versets. Excusez-moi. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu.
Amen.
Et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation. Amen. Donc la vocation nous rend, l'appel de Dieu nous rend saints. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on dit appel de Dieu, ce n'est pas nécessairement un appel au ministère, comme on dit selon Éphésiens 4, mais c'est un appel à le suivre. C'est un appel à le suivre pas à pas, comme on vient de le chanter, n'est-ce pas, à faire sa volonté. Ça, il vous met à part pour que vous lui serviez de témoin, pour que vous lui serviez, pour que vous soyez en communion avec lui, parce qu'il veut vous sauver. Ce qu'il a appelé, n'est-ce pas, hein, on connaît ça, hein, si on revient dans Romains 8, hein, ce Romains 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon son plan, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Première chose, donc, prédestiné. Ça va? D'abord, il vous a connu d'avance. Et comme il vous a connu d'avance, il vous a prédestiné. Il a connu, qui ça? Comment il s'appelle? Jacob, Ésaü d'avance, il savait d'avance qui croirait, qui aimerait et qui n'aimerait pas. Et dans ça, il voyait très bien qui l'aimerait et qui ne l'aimerait pas. Parce que l'aimer, c'est aimer ses commandements. Amen. Alors, sachant cela, lui, là, il a fait un plan pour sauver Jacob. Jacob, dans la vie, n'était pas meilleur qu'Ésaü, mais le simple fait même qu'il aimait Dieu, eh bien, c'est ça qui allait faire de sorte que Dieu l'aime et que Dieu le sauve. Et Dieu dit, Ésaü, malgré ses bonnes œuvres, je l'ai haï. Car ceux qu'il a connus d'avance, et ainsi de suite. Bon, et verset 30, et ceux qu'il a prédestinés. Donc, il a prédestiné les gens à quoi? À être semblables à l'image de son fils, afin que vous soyez, que nous soyons comme Jésus-Christ. S'il m'a appelé, son but est que je devienne semblable à Christ. Être comme Jésus tout au long du voyage de ma vie. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Donc la prédestination est venue même avant l'appel. Il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc nous venons, quand il nous appelle, allons vers le Dieu saint, en tant que peuple saint. Et nous ne verrons pas cela aujourd'hui. Je pensais que je prêcherais là-dessus, mais j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de choses à dire ici. Ce qui fait qu'on va prendre cette partie aujourd'hui. Mais il est bien dit, marchez d'une manière digne de la vocation que vous avez, qui vous a été adressée. C'était ça le premier titre que vous... Ben, j'ai enlevé le marché et remis la vocation qui nous a été adressée. C'est une vocation de valeur. Et il faut en être digne. Quand vous donnez quelque chose de bien, de valeureux à quelqu'un, il faut que la personne en soit digne. Hein? Quelqu'un qui ne connaît pas la valeur de la chose, ben, ça ne sert à rien de la lui donner. Et pourtant, c'est une chose qui a de la valeur.
Amen.
Cet appel de Dieu a de la valeur. Et s'il vous a appelé, c'est pour que vous puissiez, n'est-ce pas, rendre des témoignages, un témoignage de Jésus-Christ pour les bonnes choses qu'il a faites pour vous, n'est-ce pas, et pour moi. pauvres les frères. Et donc, celui qui nous a appelés, nous venons de le dire, lui-même est saint. Ça va? 1 Pierre, chapitre 1er. Ça veut dire séparé, mis de côté, afin de rendre service. 1 Pierre 1, verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Donc faites attention à votre conduite. Quelqu'un que Dieu a appelé ne peut pas se conduire n'importe comment. Il rendrait un très mauvais témoignage à Dieu. Et nous verrons cela plus tard. Non, il ne peut pas non plus s'habiller n'importe comment. Ça va? Il ne peut pas se comporter n'importe comment. N'est-ce pas? Bernie, si tu vas à l'hosto, tu mets ta blouse blanche et puis tu commences à courir dans tous les sens, les patients vont commencer à se faire. C'est elle qui va me soigner. N'est-ce pas? Hein? Il y a quand même une attitude à prendre. N'est-ce pas? De la même manière, un avocat, que vous voyez, il peut le faire. S'il peut courir dans tous les sens, tant qu'il n'a pas sa toge sur lui. Oui? Donc, mais s'il a sa toge sur lui, il doit quand même marcher comme un avocat. N'est-ce pas? Ah ouais? Non, si il est juge, il ne va pas mettre sa tunique de juge et commencer à se rouler avec sa tunique de juge dans le sable avec ses enfants sur la plage. Non. Il laisse sa tunique de juge, n'est-ce pas? Parce que la tunique de juge l'élève à un certain rang. Comme la blouse blanche vous élève à un certain rang. Et vous verrez que vous êtes habillé et qu'il vous a élevé, vous êtes élevé à un certain rang. Amen. Donc un chrétien doit faire attention à sa conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. C'est une parole de Dieu, parole créatrice. Ça va? Donc, notre conduite doit être une conduite en rapport au rang que Dieu nous a élevé en nous appelant. Et n'oublions pas, c'est un appel céleste. L'appel vient d'en haut. Quand Dieu nous appelle, il nous appelle d'en haut. Philippiens chapitre 3. C'est un énorme privilège que Dieu vous fait lorsqu'il vous appelle. Il vous élève. Verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Saisir quoi? Le prix. Le prix, il y a un prix. Le prix, c'est la récompense. Le premier prix, c'est la plus grande récompense. N'est-ce pas? Il y a un deuxième prix, il peut y avoir un troisième prix. Mais le prix, n'est-ce pas? Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je fais une chose. Je ne pense pas l'avoir saisi, le prix. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Ça peut vous retarder, oui. Ce qui est en arrière. Oubliez ça.
Amen.
Et me portant vers ce qui est en avant, amen. Je cours vers le but. Alléluia. N'y allez pas nonchalamment. Il faut courir.
Oui.
Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Parce que lorsque Dieu vous appelle, au bout de l'appel, Il y a un prix. Amen. Paul dit à Timothée, il dit, maintenant j'arrive au coup de marre, j'achève la course. Hein. Désormais, une couronne de justice m'est réservée.
Alléluia.
Il y a cela qui vous attend. Il y a donc un prix. Et au verset 10, j'ai sauté ça. L'apôtre dit, ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Paul savait très bien, comme nous tous nous savons, notre issue, si le Seigneur tarde, hein, nous finirons tous par partir. Et comme nous finirons par partir, il y a cette promesse de résurrection. Et il fait tout, il dit, lui, il a tout abandonné, tout ce qui pouvait sembler être bon ici. Pour ça, il n'en voulait plus. Il voulait absolument participer à la résurrection. C'est quelqu'un qui a vu cette résurrection-là de loin, puisqu'il en parle. Il en parle dans 2 Corinthiens 12, il en parle dans 1 Corinthiens 15, il en parle dans 1 Thessaloniciens 4, il en parle. Il parle de la résurrection. Il a vu ça. Jean aussi a vu ça. Jean, à la fin de l'Apocalypse, il dit, amen, Seigneur, viens, Seigneur Jésus. Ils aspiraient à ça. Le reste des projets terrestres, ça ne les intéressait plus. Ce qui les intéressait, c'était cette résurrection-là. Participer à la résurrection. C'est quelque chose de glorieux. C'est une vie glorieuse qui nous attend. Et ceux qui ont eu la grâce de voir cela, hein, ces prophètes qui ont eu la grâce de voir cela, ils nous supplient même de tout faire pour que nous y soyons, parce que c'est tout simplement merveilleux. Bon. Ce n'est pas que j'ai... Oui, ça on l'a lu, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Donc, vous voyez, dans Hébreux 3, l'appel vient d'en haut. La vocation, c'est une vocation céleste. Hébreux, chapitre 3. C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, lorsque vous êtes appelés, vous êtes saints. Dieu va vous sanctifier, n'est-ce pas? D'abord, il vous sort du trou dans lequel vous étiez. C'est la justification. Ensuite, il ne va pas vous laisser avec les saletés que vous aviez récoltées dans le trou. Il vous sanctifie pour que vous puissiez maintenant pouvoir le servir. Parce que lorsqu'on s'approche du Dieu vivant, du Dieu saint, pour pouvoir le servir, il faut être saint. Les ustensiles qu'on utilisait dans le temple devaient être sanctifiés. On ne pouvait pas les utiliser comme on voulait. Belshazzar les a utilisés comme il voulait. Nous savons ce qui lui est arrivé. Dieu est intervenu personnellement et il lui a écrit un message sur le mur. Ça va? Et cet appel n'est pas vide. C'est un appel plein de bénédictions. Il y a plein de bénédictions. Oh, Éphésiens chapitre 1er. Verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Il n'est même pas arrivé à les citer, ces bénédictions, mais il y en a plein, il en cite quelques-unes. Verset 4, nous voyons, il y a l'élection. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Cette sainteté, c'est lui qui nous la donne. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Pourquoi ? Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Maintenant, si vous voulez célébrer Dieu, si vous voulez le louer, il faut absolument que vous soyez parmi ceux en qui Dieu a travaillé. Dieu a fait une œuvre pour vous sortir de là, pour vous sanctifier, pour que vous puissiez vous présenter devant lui. Parce que, vous savez, la prière, les prières des saints ou les louanges, Dieu aime être au milieu des louanges de ses enfants. Il est au milieu des louanges des enfants d'Israël. Dieu aime ça. Mais maintenant, pour le louer, il faut que vous soyez saints. Vous n'allez pas faire n'importe quoi et puis vous venez avec tout ça. Vous savez, les traces que vous avez eues là-bas, peut-être que vous vous êtes lavé, vous ne voyez pas, mais l'eau n'enlève pas ces traces-là. Oui. Qui ça Pilate a voulu laver ses mains à l'eau, ça n'a pas marché. On ne lave pas les mains avec l'eau, c'est avec le sang de Christ. Il faut croire que Christ a payé de son sang. Il a versé son sang pour que nous soyons, n'est-ce pas, ainsi purifiés. Et il y a l'élection, et ainsi nous pouvons célébrer, n'est-ce pas, célébrer la gloire de sa grâce. Et ceux qui obtiennent grâce, évidemment, savent de quoi il s'agit. Ils célèbrent ça de tout leur cœur. Il y a la prédestination, il y a tout. Maintenant, quand je vous dis que c'est plein de bénédictions, c'est ce que nous voyons. Abraham avait été appelé. Abraham avait été appelé. Abraham aussi, quand il a été appelé, d'abord, nous le disons dans Hébreux 11. Verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, c'est-à-dire au moment de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Il ne savait pas où il allait. Mais il faisait confiance à Dieu. Il se dit, si Dieu m'appelle pour que j'aille là-bas, il n'y a pas de problème, je vais y aller. Vous savez, pourquoi ? Parce que là où il était, on peut lire ça dans Genèse 11, mais bon. Oui, on peut lire, mais il faudra revenir dans Hébreux 11. Dans Genèse 11, il a vécu des choses un peu que nous vivons ici sur la terre, n'est-ce pas ? Genèse 11. Verset 26, on l'a lu dimanche. D'abord, on peut prendre Nakhor, verset 25. Nakhor vécut après la naissance de Térakh 119 ans et il engendra des fils et des filles. Nakhor était le grand-père d'Abraham. Térakh, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nakhor et Haran. Ça va ? Donc, c'était une famille unie. Ils étaient trois frères, là. Peut-être il y avait des sœurs. Oui, il y avait des sœurs, puisqu'on parle de Sarai et de Milka aussi, et tout ça. Mais voici la postérité de Térakh. Térakh engendra Abraham, Nakhor et Haran. Haran engendra Lot. Haran était le frère d'Abraham. Mais Haran mourut en présence de Térakh, son père. Et c'est quelque chose de douloureux pour un parent de perdre son fils. Abraham a vécu ça. a vécu la perte d'un frère. Le père d'Abraham a vécu la perte d'un fils. Et puis, plus tard, lorsqu'il va partir, eh bien, Abraham va prendre son père, il va partir avec son père, et puis son père va mourir. Et il va continuer le chemin avec Lot. Ce qui signifie que il voyait bien que cette vie dans laquelle nous sommes n'a pas de solide fondement. Ça va? Nous ne vivons pas ici-bas de cité permanente. Verset 9, Hébreux 11, 9, c'est par la foi qu'il va s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Pourquoi? Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est une cité qui ne change pas, qui reste la même, où il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de larmes, il n'y a plus ces choses-là. On ne démolit pas les maisons et tout y est de manière permanente. Et Abraham, au moment, lors de sa vocation, au moment où Dieu lui demande de partir dans un pays qu'il lui montrerait, Dieu lui fait la promesse de beaucoup de bénédictions. N'est-ce pas? Genèse 12. C'est pour vous dire que l'appel, la vocation céleste est pleine de bénédictions. Genèse 12, verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Non seulement il sera béni, mais il sera lui-même une source de bénédiction. C'est-à-dire tous ceux qui vont le côtoyer seront bénis. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et c'était valable non seulement pour lui-même Abraham, c'était aussi valable pour sa postérité. Ça, toutes les promesses sont en la postérité d'Abraham. Et pour ce qui nous concerne, nous qui croyons en Jésus-Christ, nous qui avons la foi en l'œuvre de Jésus-Christ, nous sommes ainsi par la foi des fils, des filles d'Abraham. Dans Galates chapitre 3, verset 6, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Donc, le simple fait de croire, n'est-ce pas, de croire à Dieu, de croire Dieu, eh bien, Dieu fait de vous un juste. Vous êtes juste à ses yeux. Vous n'êtes plus jetable. Vous êtes conservable chez lui. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Si vous êtes fils d'Abraham, vous avez cette foi-là, eh bien, vous êtes son fils. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens que vous et moi nous sommes, par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, « Toutes les nations seront bénies en toi ». Ainsi, ceux qui croient, vous et moi, nous qui croyons, eh ben, nous sommes bénis avec Abraham, le croyant. Les bénédictions d'Abraham, elles sont pour nous également. C'est pas merveilleux, ça? Et maintenant, nous avons à marcher comme fils d'Abraham. Jésus-Christ dit aux pharisiens, aux juifs qui n'arrêtaient pas de l'importuner, dans Jean chapitre 8, verset 30, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples.
Amen.
Vous êtes vraiment mes disciples, ça signifie, vous allez réellement apprendre. Parce qu'un disciple de Jésus-Christ, il apprend. Un disciple de Jésus-Christ, il porte sa croix sans problème. Prends ta croix et viens, suis-moi. Un disciple de Jésus-Christ, il finit par être à maturité, il finit par être semblable à son maître, semblable à Christ. Il devient lui-même un maître. Amen. C'est ça, un disciple. Donc, maintenant, si vous demeurez dans ça, vous ne pouvez être son disciple et vous aurez cette oreille attentive pour écouter la parole de Dieu. Une oreille qui discernera lorsque Dieu parlera et lorsque l'ennemi parlera. Parce que même si l'ennemi dit quelque chose, même s'il vous cite la parole et que c'est l'ennemi, vous avez l'oreille d'un bon disciple de Christ. Si vous êtes semblable à Christ, vous allez lui dire « Arrière de moi, Satan !» Parce que Satan, il a essayé avec lui comme ça. Il dit « Écoute, il est écrit que... » Hein, les anges, ils viendront, te protégeront, te porteront. Il lui dit, le Seigneur lui répondait, non, tu as cité un passage hors contexte.
Amen.
Et le Seigneur lui donnait toujours le bon passage.
Amen.
C'est ça un vrai disciple de Christ. Il ne se laisse pas impressionner. Il ne se laisse pas secouer par Satan. C'est lui-même, c'est lui qui secoue Satan.
Absolument.
Et il le secoue comment? Avec les Écritures. Quand Satan vient, dit « Il est écrit », il lui dit « Il est aussi écrit ». Ça va? Non, si vous... Mais pour cela, il faut demeurer dans la parole du Seigneur. Croire en lui, c'est bien, mais restez-y, demeurez dans sa parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, tu nous parles d'être affranchis. On n'a jamais été esclaves, nous. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Ils ont oublié l'Égypte. Hein. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Il est esclave. Quand il veut faire le bien, il n'arrive pas à le faire. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est ça, quand vous êtes affranchi du péché, c'est là que vous pouvez clamer que vous êtes réellement libre. Quand vous dites que vous êtes libre de vous habiller comme vous voulez, et que vous vous habillez indécemment, en fait, vous n'êtes pas libre. C'est un esprit qui vous pousse à vous habiller comme ça.
Amen.
Vous croyez que vous êtes libre. Mais vous serez réellement libre le jour où vous verrez ces choses-là comme de la boue. Vous devez quand même... Vous savez, comment dire ça? Un prince, il n'a pas à faire les choses comme tous les autres enfants. Il est prince. Il a un sang royal en lui. Hein? Celui qui est chrétien, il a un sang chrétien en lui. Hein? Et il doit quand même occuper sa place, sa position. Sa position de chrétien. Si Satan vient lui dire, Ah, par des histoires de mode, la mode, tu sais, la mode, c'est bien comme ceci, comme cela. Si vous n'êtes pas disciple du Seigneur, vous allez tomber dans le piège. Il va vous dire, tout ce n'est pas grave. Ou bien il va carrément renier la parole. Il va renier la parole, il va dire, ça, ce sont des paroles comme ça. Moi, c'est que Dieu veut, c'est que c'est moi, Dieu voit mon cœur. Justement, dans ton cœur, il y a plein de mondanité. Pour vous montrer que vous n'êtes pas libre, quand vous êtes habillé comme chrétien ou comme chrétienne, et que quand vous êtes lié et que vous vous retrouvez au milieu de ces gens-là mondains, vous n'êtes pas à l'aise. Mais si vous êtes libre en tant que chrétien, vous serez au milieu d'eux tout à fait à l'aise. Ce sont, en fait, eux, ce sont eux qui ne sont pas à l'aise. Mais vous ne saurez pas. On me rappelait encore, une fois j'avais dit ici, c'est pas, vous savez, ce n'est pas les pantalons qui vont amener les sœurs en enfer. C'est vrai. Mais vous devez savoir que ce qui vous fait porter ça, c'est un mauvais esprit. Et pour pouvoir aller en enfer, si vous allez en enfer, c'est que vous n'avez jamais été délivré de cet esprit-là. C'est ça le problème. Mais malgré tout, il y a possibilité d'être libéré de ça. Dieu est libérateur. Maintenant, on ne parle pas seulement que de pantalons. La Bible ne parle pas seulement que de pantalons. La Bible dit, hein, un homme ne peut pas porter un habit de femme. C'est ce que dit Deutéronome 22,5. Et une femme ne peut pas porter un habit d'homme. Parce que Satan est malin. Il viendra vous dire, mais il y a des pantalons pour femmes. Oui, c'est possible. Maintenant, ces pantalons-là pour femmes, moi je suis un homme. Si je porte ça et que je viens ici avec ça ici à l'Assemblée, vous allez me mettre dehors. C'est clair, hein? Oui, et pourtant c'est un pantalon, mais ça se voit que c'est pour femmes. Je n'ai pas à porter ça. Dites amen à ça.
Amen.
Ah ouais. Des habits de femmes. Et dans l'Ancien Testament, les pantalons n'existaient pas. C'était des tuniques. Ils avaient tous des tuniques. J'ai été au Maroc, j'ai vu des magasins où vous avez les djellabas femmes, les djellabas hommes, des trucs comme ça. Eh bien, quand vous portez un truc d'homme et que vous êtes femme, c'est une abomination. Quand vous portez un truc de femme et que vous êtes un homme, c'est une abomination. Et ça, voir ça directement. Nous, peut-être, on ne voit pas. Hein. On voit seulement de longues robes. Eh bien, il y en a pour homme et il y en a pour femme. Une femme ne peut pas porter des habits d'homme. Point. Un homme ne peut pas porter des habits de femme. Point. Sinon, c'est une abomination. Alors, quand vous le faites, vous êtes lié quelque part. Les Écossais ont besoin d'être délivrés. Oui. Ah, c'est une tradition. C'est une tradition mauvaise.
Amen.
Si j'étais Écossais et que Dieu m'appelle lors de ma vocation, j'abandonne le kilt. Ce qui était pour moi un gain avant, maintenant je regarde ça comme de la boue. Qu'est-ce que je vais faire avec le kilt? D'ailleurs, c'est moche ce truc que je nous enfin. Bon, chacun ses goûts. Je sais, verset 37. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ils lui répondirent, tu parles de notre père. Notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. C'est valable pour vous et pour moi. Si nous sommes fils et filles d'Abraham, nous ferions les œuvres d'Abraham. Maintenant, si nous sommes fils et filles d'Abraham, Des filles d'Abraham, il y en a. Hein? Dans Luc 13, vous en avez une. Des fils et des filles d'Abraham, eh ben, nous sommes bénis avec Abraham, le croyant. C'est pas merveilleux, ça? Je disais que lors de la vocation, Dieu nous appelle à un rang élevé. C'est un rang élevé. Un chrétien, c'est pas n'importe qui. Hein. Vous savez, les autorités de ce monde, quand elles se promènent dans la rue et tout, ils ont un cortège. Ils ont un cortège. Mais vous savez que les chrétiens ont aussi des cortèges.
Oui.
Vous savez ça? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Donc, quand vous allez à droite, l'ange va à droite. Quand vous allez à gauche, l'ange va à gauche. Il est avec vous pour vous protéger. Tant que vous craignez l'Éternel, eh ben, ces anges-là, ils sont avec vous. Jacob, quand il a dormi là, avec une pierre comme chevet, Jacob, il a vu l'échelle. Et sur l'échelle, il a vu des anges qui montaient, qui descendaient. Il y en a plein. Élisée prie pour son serviteur. Il dit, oh Seigneur, ouvre-lui les yeux. Qu'il voie que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont là. Vous n'êtes pas n'importe qui. Et si vous réalisez qu'il y a l'ange de l'Éternel qui campe autour de vous, vous ne ferez pas qu'il campe. Hein? Il campe. Quand vous levez le camp, ben, il lève aussi avec vous. Hein. Eh ben, qui campe, hein. Ça veut dire que même chez vous, ne faites pas des choses qui ne sied pas à des chrétiens. Amen. Votre maison doit être reconnue comme une maison de chrétiens. Amen. C'est chez moi, c'est pas chez toi. Moi, chez nous, chez les chrétiens, il met là, d'abord, Jésus-Christ est le maître de cette maison. Vous savez que quand vous êtes croyant, c'est lui le maître. Parce que quand Jaïrus, quand sa fille était malade, Jaïrus est allé le chercher. Il est arrivé, il y avait plein d'incrédules qui étaient là, qui étaient venus. La fille, entre-temps, elle est décédée. Il y en a plein qui ont appris qu'il est décédé. Donc, ils sont venus, ils ont commencé à pleurer. Jésus dit, mais arrêtez de pleurer, elle dort. Alors, ils se sont moqués de lui. Il y a plein de moqueurs ici chez Jaïrus, chez un croyant. Qu'est-ce qu'il... Allez, il les a tous mis dehors. Allez, sortez tous. Jaïrus, on sort. Faites ce qu'il demande.
Amen.
Amen. Et il fait ça avec tous les croyants. Quand vous venez de croire et qu'il y a des amis en kikinant qui viennent, Jésus va les chasser. Vous verrez, à un moment donné, ils ne viendront plus chez vous. Ils vont dire, ah, chez lui, ça ne va pas. C'est toujours comme ça, alléluia, et des trucs comme ça, ça ne va pas. Ils vont partir. Amen. Gloire à Dieu. Une fois, on était chez un frère, je ne sais plus. Quel frère? Je ne sais plus si c'était à Liège ou ici, je ne sais plus. Et à un moment donné, quelqu'un dit, on va exhorter. Il y avait aussi des visiteurs qui étaient venus. Des gens qui ne croyaient pas. Alors, finalement, les croyants qui étaient là, ils avaient envie de lire la parole. Alors, on sort les Bibles. Quand on a sorti les Bibles, les incroyants se sont tous levés. Et il y en a un qui l'a dit carrément. Il a dit, ah, maintenant que vous commencez à ouvrir les Bibles, nous, on s'en va. Oh, eh ben, nous en allons. Eh ben, allez-vous-en. On ne les a pas retenus. Hein. Amen. Ils sont partis. Bien, on va terminer. Non, nous sommes appelés, vous savez que nous sommes appelés à la royauté. Puisque quand on va chanter dans Apocalypse 5, c'est « Il a fait de nous des rois », n'est-ce pas? Et des sacrificateurs. Donc nous sommes appelés à la royauté et nous sommes appelés aussi à la sacrificature dans 2 Pierre chapitre 2. Excusez-moi, c'est 1 Pierre chapitre 2. Verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Ça veut dire choisie. Vous êtes un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. La vocation. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Ouais. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous devez être royalement habillé. Vous êtes une race élue. Vous devez vous comporter comme des élus. Amen. L'erreur qu'on commet souvent, c'est quand on amène ces choses à des personnes qui ne croient pas ou qui ne croient pas encore très bien, on vient avec des brochures en disant, Frère Branham a dit, c'est pas Frère Branham qui a dit. C'est pas Frère Branham qui a dit, c'est la Bible. Non, vous pouvez les traiter de tous les noms que vous voulez, que vous voudrez, mais c'est la Bible qui le dit.
Amen.
Ah, la Bible dit dans Deutéronome 22:5, ce n'est pas Frère Branham. Hein. C'est pas fiston. N'est-ce pas? Non, c'est l'erreur qu'on commet souvent en faisant croire que c'est Frère Branham qui a dit. Non. Et tout ce qu'il a fait, il nous a rappelé de lire dans les Écritures. Non. Si ce n'est pas là, si ce n'est pas dans la parole, prenez ça et jetez à la poubelle. Mais si c'est dans la parole, faites-le.
Amen.
Prions le Seigneur. Prions, je dois. Nous remercions Dieu pour cet appel qu'il nous a adressé. Pour tout le plan qu'il a élaboré à notre sujet, excusez-moi. Et nous le remercions pour cela, prions. Que nous, partout où nous sommes, dans notre conduite, que nous puissions nous conduire en fils et en fille de Dieu. À l'école, au travail, à la maison, dans le quartier, comme des fils et des filles de Dieu. Prions le Seigneur. Père céleste, Dieu tout-puissant, c'est vrai, c'est toi qui appelles. Ce n'est pas un homme qui nous a appelés. Nous avons été appelés en haut. Et nous avons entendu cet appel. Lorsque tu appelles, tu donnes soif à quelqu'un afin qu'il vienne à toi et qu'ainsi puisse trouver en toi cette source d'eau vive qui va le rafraîchir, qui va le désaltérer. Oh Père Céleste, oh, nous te remercions pour toutes les bénédictions que tu as mises sur notre chemin. Nous voulons, nous les aimons, nous voulons en tirer profit, nous voulons en bénéficier. Nous voulons, oh, partout où nous irons, que nous puissions marcher avec toutes ces bénédictions que tu nous as données. Que tu sois béni, Seigneur, que tu sois loué. Merci encore pour ta grâce. Merci pour ce jour que tu as fait. Merci pour cette occasion que tu nous donnes. Merci pour la réunion que nous avons eue. Nous te remettons notre chemin du retour parce que puisque nous avons reçu cet appel, aide-nous, Père Céleste, oh Dieu, en toi qui nous sanctifie, quand tu nous appelles, toi qui nous mets à côté, oh, cette sanctification qui vient de toi, que tu nous sanctifies toi-même, Père, oh Dieu. Nous ne voulons pas faire les choses comme Zachée avait fait, Et lorsque tu l'as appelé, tu lui as juste dit, le salut est entré dans cette maison. Oh, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Oh, il a commencé à dire, je vais me débarrasser de ceci, je vais mettre cela en ordre. Ce n'est pas cela qui arrange. Cette justice qui vient de la loi, non. Ce qui était, c'était la justice qui est donnée par la foi en toi, par la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous te bénissons, te louons, mais nous bénissons ton saint nom. Te remercions, Père, encore pour cette occasion que nous avons eue ce soir. Maintenant, nous te remettons notre chemin du retour entre tes mains, que tu nous raccompagnes chacun, et si tu tardes à venir, que nous puissions nous revoir dans les prochaines réunions. Oh, je veux que tu bénisses cette assemblée, que tu sois avec elle, Père, que tu marches avec elle, Seigneur, notre Dieu. Oh, Père, que tu tiennes chacun par la main, et tous ceux qui ont besoin d'être tenus par toi, que tu les tiennes, que ceux qui sont debout, qu'ils soient gardés debout par toi, que tu sois leur tuteur. Oh, Père, que ceux qui sont tombés, que tu les relèves, Père. Nous te remercions pour tout cela. Pardonne-nous nos péchés, oh Dieu, pardonne-nous toutes nos offenses, tout ce que nous avons fait, indigne d'un fils ou d'une fille d'Abraham, ou d'un fils ou d'une fille de Dieu. Oh Père, tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas plu, te demandons vraiment pardon. Que tu nous aides, que tu nous pardonnes. T'adressons notre prière dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.